Voilà, bonjour. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta parole qui a été abondamment déversée dans nos cœurs déjà. Seigneur, nous voulons que tu ouvres nos cœurs encore par l'Esprit de Dieu. Que tu nous fasses entendre, Seigneur, le son de ta voix. Seigneur, que tu puisses pénétrer profondément dans les cœurs, afin d'opérer des bouleversements. Seigneur, que ton nom soit béni ce matin. Dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, alors il y a des fois où c'est plus facile que d'autres. Aujourd'hui, c'est une fois qui est vraiment difficile. Toute la semaine a été difficile. Depuis le moment où j'ai reçu le thème de cette prédication et pour toute la préparation, ça a été extrêmement éprouvant. Et on se dit qu'on n'est pas grand-chose et que peut-être il y en a un qui n'a pas tellement envie qu'on parle. Alors, vous m'excuserez si je ne suis pas très éloquent. Mais essayez quand même de capter le message que le Seigneur a donné ce matin. Le Seigneur m'a mis à cœur une phrase, et je vous lirai le contexte de cette phrase, on en parlera un petit peu, et je développerai un tout petit peu. C'est un passage très riche dans 1 Jean, chapitre 4. À partir du premier verset, et jusqu'au verset 6. Bien aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde, et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. La parole que le Seigneur m'avait mis à cœur plus particulièrement est celle-ci. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Quand je me suis penché sur ces lignes, je me suis imaginé Jean en train d'écrire. Jean était le dernier apôtre. C'est le dernier de ceux qui avaient connu Jésus vraiment encore en vie. Et on sent dans ses écrits, que ce soit l'évangile de Jean ou les épîtres, que Jean avait dû aimer Jésus vraiment, très particulièrement. Il y a ce sentiment que quand il écrivait, peut-être qu'il se, je sais pas, il se revoyait, il se replaçait dans le contexte lorsqu'il marchait aux côtés de Jésus, qu'il enseignait, qui peut-être lui prenait le bras, et toutes ces impressions, tous ces, peut-être même des odeurs, devait lui revenir à l'esprit. Vous avez connu ça peut-être, si vous écrivez de temps en temps des choses. Vous rappelez le passé, ou quand vous passez dans des endroits, vous avez des odeurs, et vous dites, tiens, j'ai connu ça, il y a tant d'années. Et je pense que Jean vivait son écriture. C'était pas juste, voilà, quelque chose de bien intelligent, bien cadré dans sa tête. C'était quelque chose de très vécu, qui lui appartenait, qui était collé à son corps, qui était intégré à sa personnalité. Et il s'est exprimé sur la feuille, alors que le Saint-Esprit lui remettait en mémoire tout ce qu'il avait vécu et tout l'enseignement que Jésus lui avait donné. Et je pense qu'il y a une phrase en particulier qu'il avait entendue de la part du Seigneur Jésus qui a dû lui revenir très fortement à l'esprit alors qu'il écrivait. C'est celle-ci, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Parce que l'Évangile, mais aussi toutes les épîtres, tournent autour de cela. Demeurer en Christ. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. En d'autres termes, celui qui confesse que Jésus vient de Dieu est de Dieu lui-même. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça signifie que de dire Jésus-Christ vient de Dieu, fait de nous des croyants? Non. On sait que Satan est capable de le dire lui-même, parce qu'il le sait. Il ne le dira pas, mais il le sait. On peut enseigner cela sans pour autant confesser Jésus-Christ. Nous avons autour de nous des gens qui sont des érudits, qui croient dans la Bible, certains même qui arrivent à l'enseigner, ou à faire des cours de religion, ou je ne sais pas quoi, ou des philosophes qui en parlent. Mais il n'y a pas dans ces gens-là des prophètes. Il n'y a pas dans ces gens-là des gens qui parlent de Dieu avec expérience. Et c'est ça, confesser Jésus-Christ. C'est parler de Jésus-Christ avec l'expérience de Jésus-Christ en soi. Soit évoquer le nom de Jésus-Christ, soit simplement par sa vie, par la façon dont on est, par la façon dont on se comporte. Reconnaître l'Esprit de Dieu, c'est déjà un gain dans la vie du chrétien. N'est-ce pas ? De savoir que lorsque quelqu'un prie, on entend et on se dit, tiens, là, c'est Dieu qui parle. C'est extrêmement important, n'est-ce pas, d'être capable de recevoir la parole de Dieu dans toutes les circonstances de notre vie. Le Seigneur m'a parlé de façon bien diverse. Et on pourrait penser qu'il y a juste des situations particulières dans lesquelles le Seigneur parle dans une église. N'est-ce pas ? On se dit, il faut rentrer dans une église pour que Dieu me parle. Donc c'est ignorer que Dieu est beaucoup plus grand que ça. Ce n'est pas parce que vous êtes là ce matin que Dieu peut vous parler plus que lorsque vous serez chez vous à la maison. Il peut être dans des situations tout à fait étrangères à un contexte chrétien, et pourtant Dieu va vous parler, parce que vous êtes en mesure de reconnaître la parole de Dieu. Si nous reconnaissons la parole de Dieu, nous sommes aussi en principe de ceux qui confessent. Ce qui confesse, c'est, j'ai oublié de le dire, c'est, on en a parlé vendredi soir, ce qui homologue. Le grec, pour confesser, c'est homologeo, dont on tire le mot homologuer. C'est-à-dire rendre conforme. Rendre témoignage que c'est accepté, c'est validé. Et lorsqu'il s'agit d'une candidature, lorsque c'est quelqu'un qui demande à s'inscrire dans un groupe ou quelque chose, eh bien, on est de tout cœur avec lui, lui est de tout cœur avec nous. On fait partie d'un même corps. C'est ça aussi que ça signifie. Et là, on a un avertissement. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Est-ce que nous prenons la mesure de ces paroles? Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. En d'autres termes, celui qui n'exprime pas la vie de Jésus-Christ n'est pas de Dieu. D'où la question, qu'est-ce que je confesse dans mon quotidien? Qu'est-ce qui me caractérise? Je fais beaucoup d'efforts pour maigrir. Et je fais attention à ce que je mange. Et j'ai lu un jour qu'un diététicien disait « On est ce qu'on mange. » Ça va, encore. Mais, on est ce qu'on mange. C'est pareil spirituellement. On est ce qu'on consomme spirituellement. Je ne sais pas ce que vous avez consommé hier soir. Quel était le film que vous avez regardé? Quel était le degré de violence dans ce film? Le niveau de sexualité dans ce film? Je ne sais pas de quoi vous avez rempli votre esprit hier soir. Ou alors ces feuilletons ésotériques, ou toutes ces choses-là. Ces choses ne confessent pas Jésus. Vous êtes d'accord? Est-ce que décemment nous pouvons nous remplir de ces choses-là? Est-ce que, étant remplis de ces choses-là, nous confessons Jésus après? Mais peut-être que vous êtes si bien organisé que vous avez des tiroirs, que vous pouvez rentrer des choses dans un tiroir, le fermer et en ouvrir un autre. On est ce qu'on consomme. Quelle que soit notre capacité à compartimenter, on est absolument ce que l'on consomme. Ça, c'est un danger interne. Il y a un danger externe. L'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. L'apôtre Jean, on le sent dans ses écrits, voulait protéger les croyants et les prévenir du danger qui arrivait, des hérésies qui venaient sur l'Église, des choses qu'il entendait par-ci, par-là, qui venaient en force. Mais déjà l'apôtre Paul en parlait. Et il voulait prévenir les chrétiens. Ce qu'il y a dans notre cœur sera révélé lorsque l'apostasie arrivera. C'est-à-dire lorsque nous serons tentés de croire à d'autres choses. Et la façon dont nous avons consommé Christ, la façon dont nous avons consommé les autres choses, va nous mettre en face de choix. Il va nous demander de prendre des décisions concernant la foi. Et c'est la façon dont nous sommes faits à l'intérieur qui va déterminer les décisions que nous allons prendre en ce qui concerne la foi. Jésus prophétisait, il s'élèvera de faux Christs, de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, les élus. Ça, c'est ce qui était prophétisé et c'est ce que Jean commençait à sentir déjà. 2000 ans ont passé. Soyez-en sûrs, Satan a plombé le monde chrétien. Le monde chrétien! Pas seulement à l'extérieur, ça lui appartient déjà. Mais le monde chrétien, ce qui s'appelle chrétien, est plombé de faux prophètes. La chrétienté est bombardée d'idées de toutes sortes. Et on doit souvent se prononcer sur ces idées. Il y a des gens qui se promènent partout sur la terre et qui font des miracles, des choses absolument inouïes. Et il faut qu'à l'intérieur de notre cœur, nous sachions comment nous placer par rapport à ces choses que nous voyons et que nous entendons. Est-ce que nous sommes équipés pour cela? Est-ce que nous sommes prêts pour cela? Le malin a développé un plan pour l'humanité. On dit souvent que Dieu a un plan pour nos vies. Et c'est vrai. Le malin aussi a son plan. Et il n'y a rien de pire qu'un homme qui se croit sauvé alors qu'en réalité, il est sous l'emprise du diable. Et je crois que le plan le plus rusé que le malin est en train de mettre en œuvre, c'est celui que j'appellerais celui de l'acceptation de la servitude. C'est de faire en sorte que l'homme, de façon consciente, accepte d'être soumis à la puissance satanique. Et ça, ce sera le comble, je pense, de ce que Satan est en train de mettre en œuvre, que l'homme brise toutes les barrières chez l'homme pour l'asservir complètement, le rendre incapable de réaction, le rendre incapable de discerner la voix de Dieu. L'apôtre Paul disait que nous luttons non pas contre des hommes et des femmes ou des gens qui nous ennuient, mais nous luttons contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et Paul savait de quoi il parlait, n'est-ce pas? Il avait, lui, lutté contre des hommes. Il avait été le fer de lance de Satan. Satan avait fait de lui une marionnette. Et Paul était le plus féroce défenseur de Dieu. C'était comme ça qu'il voyait les choses. Il ne pensait pas faire mal. il pensait faire bien. Et vous comprenez, quand on pense faire bien, alors, beaucoup de choses s'ouvrent à nous, beaucoup de moyens, légaux ou moins légaux, se proposent de venir soutenir notre action. L'apôtre Paul était réellement une marionnette entre les mains de Satan pour persécuter et ravager l'Église. Pardon ? Bien sûr, avant sa conversion. Mais ceux qui ont connu l'apôtre Paul avant sa conversion ont beaucoup souffert. Permettez-moi de vous poser la question. Qu'est-ce que les gens connaissent de vous? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être avec un persécuteur? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'être aimés, protégés, compris? Ou est-ce qu'ils ont le sentiment d'être avec quelqu'un qui leur veut du mal en permanence, un persécuteur? Je pense que Satan utilise des gens de renom aujourd'hui encore, pour persécuter l'Église spirituellement. C'est beaucoup moins aujourd'hui physique, mais c'est très spirituel. C'est tout ce qui concerne notre mentalité, tout ce qui concerne les idées, est attaqué de toutes parts par la puissance démoniaque aujourd'hui. Dans les versets que nous avons lus, celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On lit, si on enlève l'un ou l'autre mot, celui qui est en vous est plus grand. On peut aussi lire celui qui est en vous est grand. On peut aussi lire celui qui est dans le monde est grand. Toutes ces propositions sont justes. Donc la Bible nous dit que Satan est grand. Elle ne nous dit pas que Satan est petit. Satan est un séducteur. On le sait depuis le péché originel. On sait comment il a changé la façon de voir les choses de Ève et d'Adam ensuite. Dans Apocalypse 12 au verset 9, Satan est appelé celui qui séduit toute la terre. Dans les épîtres, Jean dit plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Au verset 1, il dit plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, mais dans la deuxième épître, il dit à peu près la même chose, mais il dit plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Jésus disait que les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. On a le sentiment que les gens ont soif de belles choses, de bonnes choses. Ils ont envie de vie bien rangée, bien claire. Et que si ça n'était pas le cas, ils souffriraient énormément. Et donc, on a l'impression que si on leur présente l'Évangile, ils vont l'utiliser comme une planche de salut et se rapprocher du Seigneur. Mais ce n'est pas le cas, parce que les gens préfèrent les ténèbres à la lumière, n'est-ce pas, José? C'était une grande révélation pour José, ce passage. Oui, l'homme, la femme, monsieur tout le monde, préfère les ténèbres à la lumière. Est-ce que vous préférez les ténèbres à la lumière? Je ne devrais pas vous poser cette question, vous êtes des croyants. Mais réellement, est-ce que vous avez envie que Jésus vienne maintenant? Sondez vos cœurs, sondez vos reins, lire exactement ce qu'il y a dans chacune des cellules de votre cerveau. Est-ce que vous avez envie de cela? Les jeunes, des fois, disent « Ah, mais si Jésus venait maintenant, je ne pourrais pas vivre ma vie. » On a l'habitude de dire « Ah, les enfants, l'église de demain. » Ce n'est pas l'église de demain, les enfants. Soit ils font partie de l'église aujourd'hui, soit ils ne font pas partie. C'est une hypothèse, alors. Mais les enfants doivent faire partie de l'église maintenant. Pas demain. Est-ce que nous préférons vraiment la lumière aux ténèbres? Satan est rusé. Nous, chrétiens, parfois, nous avons tendance à choisir la neutralité, ne pas nous engager. Il y a des jeunes filles, là, qui cherchent quelque chose. Peut-être qu'on pourrait aller voir. N'est-ce pas? Peut-être que nous sommes de ceux qui te disent, bon, je prends pas parti. On se dit que la neutralité, c'est une position qui est acceptable. Je m'engage pas trop dans un domaine ou dans un autre. Mais la parole de Dieu ne nous permet pas de nous bercer d'illusions. Nous devons nous engager. Si quelqu'un souffre et que nous avons connaissance de cette souffrance, nous ne pouvons pas nous permettre de rester à ses côtés et de lui dire « Mais voilà, tu as des problèmes, je vais prier pour toi, tu as faim, je vais prier pour toi, ça ira mieux après. » Il y a un engagement qui nous appartient d'accomplir. Si notre vie n'est pas résolument engagée dans une action ou une attitude qui confesse Dieu, alors nous avons de sérieuses questions à nous poser en ce qui concerne notre salut. Un chrétien n'est pas quelqu'un qui reste sur sa chaise à attendre que les choses passent. C'est l'action qui doit être le moteur de sa confession. Alors, est-ce que ma vie est une confession ou est-ce que ma vie est un reniement? 1 Jean 4, verset 4, toujours encore. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et avant ça, il est marqué, vous les avez vaincus. Vous avez vaincu les séducteurs, vous avez vaincu les faux prophètes. Donc, ce que vous avez vaincu, l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas à vous battre contre la chair et le sang. Donc, ce que vous avez vaincu, ce sont leurs esprits. C'est ce qu'ils véhiculent, n'est-ce pas? Nous avons vaincu si nous vivons la victoire. Est-ce que, ce matin, chacun peut, en se regardant dans la glace, qui est la parole de Dieu, dire « Je suis dans la victoire ». si c'est eux qui nous ont vaincus, alors nous ne sommes pas en communion avec Dieu. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la justice, la vérité. Il n'y a pas de neutralité possible. Soit nous avons vaincu, soit nous sommes vaincus. Physiquement, ça ne change rien du tout. On peut avoir exactement la même tête et être assis exactement à la même place tous les dimanches. Mais soit vous êtes assis et vous êtes vainqueur, soit vous êtes assis ici et vous êtes vaincu. Et si vous êtes vaincu et que vous affirmez l'inverse, eh bien vous êtes menteur. Vous vivez dans le mensonge. Vous vous bercez d'illusions. Vous êtes séduit, complètement séduit par Satan. Alors, si je vous posais la question, vous me diriez, mais moi je suis vainqueur. Et alors je vous poserai une autre question. Je dis, mais comment le sais-tu que tu es vainqueur? Alors vous me répondrez, ah, mais parce que j'ai le témoignage intérieur du Saint-Esprit qui me l'affirme. Alors moi je vais vous dire une chose, si vous vivez dans le mensonge, et si Satan doit vous donner un témoignage intérieur que vous êtes vainqueur, eh bien il va vous le donner. Il s'engagera jusque-là, sans problème. Mais mon cœur me le dit que je suis vainqueur. Le frère ce matin a cité un verset. Le cœur de l'homme est tortueux. Par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Dans son introduction au chapitre 4 aussi, l'apôtre Jean dit c'est un autre endroit, je ne sais pas. N'ajoutez pas foi à tout esprit, si c'est ça. Oui, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Est-ce que vous avez testé votre foi pour savoir si celui qui est en vous est plus grand. Celui qui est en nous est toujours grand. C'est ça que nous dit ce verset. Celui qui est en nous est toujours grand. La question que pose ce verset, c'est est-ce qu'il est plus grand que celui qui est dans le monde? La parole dit que le monde est gouverné par le malin. Le monde gît sous la puissance du malin. L'apôtre Jean, toujours, dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il hait ou déteste son frère est encore dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez où je veux en venir? On ne peut pas, d'un côté, reconnaître Jésus, confesser Jésus, dire que nous sommes en communion avec nous. Et sur une chose aussi absurde, c'est-à-dire, ah mais je haïs pas mon frère. Alors je peux vous faire une autre traduction. Celui qui est odieux vis-à-vis de son frère. Voilà une autre traduction possible. C'est plus moderne. C'est pareil. Celui qui n'aime pas son frère. celui qui n'aime pas ou qui ne se comporte pas bien avec sa femme, avec son époux, avec son frère et sa sœur dans l'église, avec ses enfants, que sais-je. Est encore dans les ténèbres. Permettez-moi d'insister là-dessus. Si nous, croyants, avons ce genre d'attitude, du ressentiment les uns pour les autres, la parole de Dieu nous dit que nous sommes dans les ténèbres. Non, mais moi je suis sauvé. Je ne sais pas comment vous connaissez Dieu. Moi, je sais que Dieu me dit, le salaire du péché, c'est la mort. Alors oui, mais la grâce ne fera jamais l'économie de la repentance. La grâce ne fera jamais l'économie de la contrition. Il faut régler les problèmes, quels qu'ils soient de cet ordre-là ou d'autres, tout ce qui est de l'ordre du péché dans la vie du croyant doit être réglé pour que nous puissions dire « Je suis en communion avec Dieu ». Parce que si nous le disons alors que ça n'est pas réglé, nous sommes menteurs. Et chaque fois que nous sommes menteurs, nous péchons. Et chaque fois que nous péchons, nous ne sommes pas sauvés. Chaque fois que nous nous repentons, nous sommes sauvés. Jésus dit dans Matthieu, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. N'est-ce pas? J'ai dit avant, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il hait ou déteste son frère est encore dans les ténèbres. Jésus dit, jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Satan est appelé le prince des ténèbres. Dans Jean 3, verset 8, il est dit, « Celui qui vit dans le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. » Est-ce qu'il y a des problèmes irrésolus dans votre vie? Est-ce que dans l'assemblée, dans vos familles, autant que ça vous est donné de le connaître, est-ce qu'il y a des problèmes irrésolus? Est-ce qu'il y a des choses qui vous empêchent de marcher dans la lumière? Parce que si vous dites que vous êtes dans la lumière et que les choses ne sont pas réglées, vous mentez. Et vous n'êtes pas au bénéfice du salut, à l'heure même. Vous ne vivez pas en nouveauté de vie, mais selon le train de ce monde. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Je sais qu'on fait une distinction entre une vie de péché et les péchés occasionnels. C'est le péché occasionnel répété qui fait qu'on est dans une vie de péché, n'est-ce pas? Et Satan utilisera le premier péché pour vous faire glisser dans le péché, dans la vie de péché, sans problème. N'est-ce pas? Les chrétiens sont souvent, vivent comme Samson vivait. Moi je parle du syndrome de Samson, celui qui savait la puissance de Dieu, qui connaissait la puissance de Dieu, qui avait expérimenté la puissance de Dieu dans sa vie. Et lorsqu'il s'agissait de... lorsque cette femme voulait connaître le secret de sa puissance, il a joué avec. Il a joué. Et il disait, à chaque fois je m'en sortirai, comme la fois dernière je m'en sortirai. Il ne voyait pas qu'il était en train de marcher sur le bord de la falaise. Et il a fallu une chiquenaude à Satan pour le faire tomber. Nous vivons souvent comme ça. Dieu, le Seigneur m'en sortira toujours. Le Seigneur est bon. La grâce de Dieu est sur moi. Satan utilisera le premier péché pour vous faire glisser dans une vie de péché. Quel qu'il soit, le premier péché n'aura peut-être rien à voir avec l'état dans lequel vous serez dans quelque temps. Celui en nous doit être plus grand que celui qui est dans le monde. Il ne doit pas être le même. Parce que s'il est le même, c'est Satan qui domine. Celui qui est en nous doit être le plus grand. Alors, qu'est-ce qui caractérise le plus grand en nous? Selon Jean, il y a deux grandes caractéristiques, la lumière et l'amour. Le premier devoir du chrétien, la première chose qu'il doit faire, et la première chose que le Saint-Esprit lui met à cœur, et ça vous pouvez le voir chez tous les nouveaux convertis, c'est d'exposer les choses à la lumière. C'est la première réaction qui vient. Il expose tout. Ce qu'il a été dans le passé. Vous connaîtrez rapidement tous les détails d'une vie parce que il y a un besoin. C'est de le révéler, non pas parce que ça fait du bien de le révéler, mais parce que on veut avoir l'avis de ceux qui connaissent Dieu. On veut savoir comment est-ce que Dieu fait dans ces cas-là, lorsque j'ai été aussi et profondément dans le péché. Parce que c'est Dieu qui met les choses à la lumière, n'est-ce pas? Comment est-ce que nous recevons le témoignage de ces gens qui se donnent au Seigneur? Est-ce que, disons, oh là, ne parle pas de ces choses-là, ça me fait du mal. Le nouveau-né chrétien est aussi celui qui va aller prêcher l'évangile, au risque de se prendre des portes dans la figure sans arrêt, n'est-ce pas? Souvent on dit, oh, il est casse-pied celui-là, qu'il connaît le Seigneur, il parle de Dieu à tout le monde, et puis même dans l'église peut-être, on dit, mais il faudrait qu'il fasse attention, parce que ça va nous porter préjudice peut-être, n'est-ce pas, s'il dit qu'il vient de chez nous et qu'il se comporte comme ça. Frères et sœurs, c'est l'œuvre de la lumière en lui. Il n'y a pas nécessairement une grande sagesse derrière, certes. Mais lorsqu'on parle de sagesse dans ces domaines-là, on parle souvent d'expérience rationnelle de l'évangélisation. Après, c'est ça où on va faire les choses de façon beaucoup plus rangée. Et finalement, on va plus rien faire du tout. C'est ça qu'on veut mettre à la place. Et ça, ce sont les premières atteintes de Satan sur l'individu lorsqu'il a donné son cœur. C'est que dans l'Église même, on va commencer à le freiner. Est-ce que vous avez la lumière en vous? Est-ce que Dieu a dévoilé son plan? Vous ne comprenez pas encore? Que Dieu veut tout vous montrer de lui. Il veut que vous sachiez qu'il est le plus grand. Et Dieu est le Père des Lumières. Il est la lumière. Alors vous me direz peut-être, oui, mais on ne peut pas tout éclairer quand même. On ne peut pas. Il faut la sagesse. Cette sagesse est une sagesse qui va travailler à l'encontre de l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul disait, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et Christ te relèvera. Tout peut être mis à la lumière, y compris les choses les plus profondes. y compris ces choses, parce qu'en fait, ce sont celles dont on pense qu'il ne faut pas les révéler, qu'il ne faut pas en parler. Celles dont, vous savez, ces lourds secrets, ces choses intouchables, ces choses où on commence à fantasmer et dire « il faut que ce soit touché par... » Là, il faut vraiment que ce soit un grand homme de Dieu qui s'en occupe. Ces choses où on idéalise et on dit « mais là, oh, il y a quelque chose qui est tellement profond et tellement puissant que ça va pas juste partir comme ça. » Ça, c'est de la théorie satanique, frères et sœurs. Dieu est lumière à partir de la première seconde où il vous a rencontré. Et les choses les plus compliquées dans nos vies, il veut les résoudre. Et il peut les résoudre comme ça. Est-ce que nous le croyons? Ou est-ce que nous échafaudons des façons de fonctionner que nous, et nous disons que Dieu marche comme ça? Il y a des choses qui sont mortes à l'intérieur de nous, les choses dont on dit elles ne peuvent pas se réveiller. Réveille-toi. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et Christ te relèvera. C'est pas l'homme de Dieu qui va le faire. C'est pas telle personne qui va le faire. C'est Christ lui-même à partir du moment où tu te lèves et que tu ouvres les choses. Et le Seigneur ne veut pas nous donner juste des flashs de lumière. Il veut nous donner une lumière vive qui va nous poursuivre tout le temps que dure notre vie sur la terre et qui sera notre éclairage là-haut dans les cieux. Si le Seigneur vous montre des choses ce matin, il vous les a mises à la lumière. Et alors, votre action doit être d'obéir sur le champ, quel que soit le prix que cela coûte. La lumière va nous révéler la profondeur de notre péché, pour nous mener dans une vie de repentance. C'est à ça que sert la lumière de Dieu. La repentance, c'est pas juste la liste des choses qu'on a repérées dans notre vie, un checklist qu'on va barrer, voilà, tout ça c'est réglé maintenant. C'est bon, je suis sur la bonne voie, c'est réglé. C'est pas ça la repentance. La repentance, c'est une attitude. De même que la confession est une attitude, la repentance est une attitude où tous les jours, s'il le faut à chaque minute, nous avons une attitude qui est celle de la repentance devant Dieu, celle de la contrition. La repentance amène l'obéissance. La repentance amène la soumission. La repentance nous amène à aimer plus et plus et plus encore. Est-ce que c'est ça notre expérience de Dieu? Jésus a dit dans Matthieu, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. C'est pas merveilleux? C'est lui qui parlait. Le plus grand parmi vous, c'était lui-même. C'était lui-même et il a montré qu'il était le serviteur. Celui qui est en vous doit être plus grand que celui qui est dans le monde. Jésus a dit, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Est-ce que nous sommes des serviteurs les uns des autres? où est-ce que nous avons placé le serviteur définitivement sur un piédestal. Il y en a pour qui c'est le pape. Il y en a pour qui c'est, je sais pas, John Stott, chez les Anglicans. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Je veux juste terminer sur une question et avec un verset. Est-ce que nous avons vraiment reçu la vie de Christ en nous? Ou est-ce que nous sommes victimes de la séduction satanique? Est-ce que nous sentons que celui qui est en nous est simplement grand? Ou est-ce que nous sentons qu'il est le plus grand? Et le plus grand dans le monde? Une des capacités de la lumière, c'est de nous rendre conscients de notre péché. C'est de nous rendre capables non seulement de discerner le péché, mais aussi de le haïr. Le croyant, je l'ai déjà dit, doit être un dictateur pour son péché. Il doit l'éliminer. C'est ça que la lumière nous montre. Et par grâce, Dieu nous pardonne nos péchés. L'amour de Dieu ne le conduira pas à brader le salut. Il faut passer par la repentance sincère et permanente de son état. Dans Romains 13, il est dit « La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc les œuvres de ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. » Je veux, frères et sœurs, que ce message vous arrive comme un avertissement. Que ce message vous arrive afin que, s'il le faut, vous vous mettiez en règle immédiatement. Que vous obéissiez à la voix de Dieu. Et que vous ne continuiez pas dans le mauvais chemin sur lequel vous êtes engagé. Voilà, que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, tu es la lumière. Et à bien des reprises, Seigneur, tu nous montres les choses. Seigneur, je prie pour moi, je prie pour chacun de mes frères et sœurs ici. Que, Seigneur, nous puissions, sans réfléchir, régler les problèmes qui se montrent à nous, qui sont exposés. Que nous n'ayons pas l'impression qu'il y a des choses à mettre à part, de côté, pour d'autres temps. Et que nous fassions, Seigneur, ce que tu nous demandes de faire tout de suite. Seigneur, je prie pour une venue puissante du Saint-Esprit dans chacun de nos cœurs. Et Seigneur, que cela rejaillisse dans nos vies, dans la vie de l'Église et dans toutes nos tentatives, Seigneur, de partager l'amour de Christ pour nous. Seigneur, nous voulons que notre parole ne soit pas la parole d'un menteur. Nous voulons que nos paroles soient celles de quelqu'un qui est en communion avec Christ, qui a sur lui le sceau du vainqueur, qui peut vivre jour après jour dans la victoire et non pas dans la défaite à cause du mensonge qui est la source même de sa vie. Seigneur, je prie pour que tu nous ouvres les yeux sur la réalité des choses, que tu, Seigneur, fasse que le séducteur se retire et que nous puissions voir, ô Dieu, ta sainteté, ta grandeur et ton amour. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.